Et nous allons lire donc des versets 17 à 38. Paul va en direction de Jérusalem et il ne veut pas s'arrêter à Éphèse. La raison ne nous est pas donnée, mais il fait venir à lui. Le texte nous dit qu'il convoque les anciens pour leur parler. Et voilà ce que nous lisons à partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit : Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous. Depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi, pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Cela dit, il se mit à genoux pour prier avec eux tous. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus revoir son visage. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Donc, comme dit, seul discours qui s'adresse à l'Église directement. Et Paul le structure lui-même, en fait. Vous avez remarqué que 3 fois, il y a cette expression qui revient « et maintenant ». Dans les versets 22, 25 et 32. Et qui permettent, au final, à Paul de structurer son discours. Et nous allons suivre alors ensemble cette structure où Paul encourage l'Église, mais aussi les anciens, premièrement par sa propre conduite. Et c'est ainsi qu'il commence son discours. « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit. » Et il va rappeler lui-même encore 2 fois ce qu'il a fait. Verset 31, « Vous souvenant que je n'ai cessé nuit et jour. » Donc il rappelle comment lui-même a vécu. Et également au verset 34, « Vous savez vous-même. » Et il rappelle comment il a agi par rapport à ses besoins particuliers. Donc Paul commence, non pas en se mettant en scène, mais en se proposant comme modèle, non pas pour attirer les regards à lui, mais pour faire réfléchir les anciens, les faire réfléchir sur ce que lui-même a vécu. Et la première chose qu'il leur dit, et par laquelle il veut les encourager, c'est qu'il a servi dans l'humilité avec des larmes et avec des épreuves. Et Paul rappelle ici aux anciens, ça va être dur. Servir dans l'Église, c'est dur. Et Paul ne leur promet pas que ça va être facile. La première chose que m'a dit mon premier formateur quand je me suis formé pour être pasteur, un des premiers conseils qu'il m'a donné, c'est « Philippe, achète-toi une grande poubelle ». Je dis « Mais pourquoi ?» Il dit « Tu vas écrire beaucoup de lettres de démission. » Et c'est pour toutes les jeter à la poubelle. Et je dis « Bon ». Il m'a dit « Tu verras, plein de fois tu en auras marre, plein de fois tu seras découragé. Et tu vas écrire des lettres de démission, mais il faudra que tu les jettes. » Et il avait raison. Plein de fois, effectivement, je me dis « J'en peux plus. L'Église m'énerve. » Mais parfois, c'est moi qui m'énerve en voyant mes limites à moi, en voyant mes erreurs à moi. Et à cause de cela, ça entraîne découragement, larmes et souffrance. Mais comme dit, parce que l'Église est composée de personnes comme moi, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Il y a les critiques qui blessent, les remarques qui font mal. Et à cause de cela, parfois on a envie de dire, mais débrouillez-vous. Moi, je retourne à l'enseignement, hein, de biologie, c'est tranquille. Débrouillez-vous sans moi. Et parfois, c'est vrai que c'est arrivé qu'on se retrouve dans son bureau à perdre une demi-journée, à se dire « Mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je continue? J'écris ma lettre de démission? Est-ce que j'ai les capacités pour? Est-ce que j'ai vraiment été qualifié pour cela ou pas ?» Mais on prend cette lettre et on la jette. Pourquoi? Parce que Dieu nous relève. Et parce que l'Église vaut la peine d'être vécue. Parce que l'Église reste ce projet de Dieu. Et c'est pour ça que Paul continue, mais il nous avertit ici aussi, en tant qu'ancien, il y aura des souffrances, il y aura des larmes, il y aura des épreuves. Soyons clairs là-dessus. C'est normal dans un monde après la chute. Et ce n'est pas seulement vrai pour les anciens, n'est-ce pas? C'est vrai pour tout membre d'Église. C'est vrai pour toute personne qui veut servir dans l'Église. Parfois, au lieu d'avoir un merci parce qu'on était là à 9h et qu'on a pris le temps de faire la louange, où on va nous dire « Ah tiens, t'as fait une autre là, t'as fait un si bécard au lieu d'un si normal. » Et je sais pas si ça, c'est juste, hein, mais bon. Et on dit « Mais franchement, à quoi ça sert ces remarques-là ? À part à décourager, à part à démotiver, à part à empêcher d'autres personnes de se lever pour prendre la place, n'est-ce pas ? Et là, la question que j'aimerais nous poser, c'est de quel groupe on fait partie? On fait partie de ceux qui découragent? On fait partie du groupe de ceux qui sont toujours en train de remarquer ce qui ne va pas et de bien le pointer du doigt? Ou on fait partie de ceux qui veulent encourager? Je dirais, c'est pas grave, merci pour ton service. Ça ne veut pas dire qu'on va faire les hypocrites, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on va faire comme si tout allait bien, mais de faire le choix de l'encouragement plutôt que du choix du découragement et de la sale ambiance. Question, tu fais partie de quel groupe? Mais soyons clairs, pour n'importe quel service que tu vas prendre, il y aura des moments de découragement, des moments où on aura envie d'arrêter. Et Paul nous rappelle ici, soyons réalistes, c'est normal. C'est normal. Mais persévérons. Et comment Paul nous invite ici à persévérer? Verset 27. Non, je suis allé trop loin, pardon. Oui, verset 20, mais il va le rappeler au verset 27. Sans rien dissimuler. C'est dur, ça entraîne des larmes. Mais je vais continuer parce que sans rien dissimuler, je vais tout vous annoncer. Verset 27, il le rappelle qu'il a, sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. On peut se poser la question, est-ce que Paul voyait un problème ici, chez les anciens d'Éphèse ? Est-ce qu'il ne voulait pas tout dire ? Et c'est vrai qu'il peut y avoir la tentation de ne pas tout dire, d'arrondir un peu les angles, parce qu'on ne veut pas se faire taper dessus. D'arrondir les angles pour être d'accord avec tout le monde et pour ne pas susciter d'opposition. Arrondir les angles pour plaire. Parce qu'on sait très bien que si on va dire certaines choses qui viennent de la parole de Dieu, on va nous taper dessus. On va susciter de la colère. Il y a des personnes qui vont claquer la porte de l'église. Mais Paul dit, il ne faut rien dissimuler. Sans rien dissimuler, je vous ai annoncé. Le but, et nous pouvons connaître cette tentation-là aussi en tant qu'église, c'est de vouloir avoir une ambiance sympa. C'est de vouloir mettre tout le monde à l'aise, d'avoir une musique contemporaine, des messages qui vont avec l'air du temps pour plaire, pour attirer du monde, pour que notre salle soit pleine. Mais Paul dit non, c'est pas ça le but. Le but n'est jamais la salle pleine. Le but, c'est de ne rien dissimuler pour apporter les Juifs et les Grecs à la repentance et à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que les hommes ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on les caresse dans le sens du poil. Et toi et moi, on n'a pas besoin de ça, n'est-ce pas ? Ça ne nous fait jamais progresser, cela. Mais on a besoin d'être confrontés par Dieu, par sa parole. Donc, par des personnes qui ne dissimulent pas tous les aspects de la parole. Pour nous reprendre, pour nous permettre d'avancer, pour que notre foi soit basée sur Jésus-Christ, pour qu'on puisse dire « Seigneur Jésus », pas seulement quand on va prier pour le repas, mais qu'on puisse dire « Seigneur Jésus-Christ » quand je suis avec ma femme, quand je suis avec mes enfants, quand je suis au travail. Que le Seigneur Jésus-Christ soit pas seulement le Seigneur le dimanche matin, mais à chaque instant de ma vie. Et pour cela, il ne faut rien dissimuler, mais tout dire. Et parfois, ça va faire mal, parce qu'il y aura des réactions, et il y a des larmes. Mais ça vaut le coup. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux personnes, au final. Parce que c'est la vie éternelle qui est au bout. Ne dissimulons rien aux personnes qui nous attendent. Et juste un exemple qui doit nous faire réfléchir, c'est que Jésus-Christ a agi comme ça, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez un peu de cet épisode où les disciples de Jésus sont venus voir Jésus, lui ont dit « Mais tu sais que tu as choqué les pharisiens par ce que tu as dit ?» Et qu'est-ce qu'il leur a répondu ? « Laissez-les, ce sont des aveugles. » Il a dit « Oh, non, attendez, on va arrondir les angles, on va arranger pour qu'ils puissent me suivre, non ? Laissez-les. » S'ils ne veulent pas écouter, s'ils ne veulent pas recevoir, laissez-les, ce sont des aveugles. Alors que plusieurs de ses disciples l'abandonnent à cause de ses paroles, il va se tourner vers les 12 et va leur dire « Et vous, vous ne voulez pas partir également ?» Il ne cherche pas à avoir plein de personnes, il va même pousser, oser partir, ayez le courage. Au final, pour pousser, non, le courage, c'est de rester avec toi. Parce que même si c'est dur, même si ce n'est pas moderne, même si ça ne va pas avec notre culture, c'est toi qu'on a besoin. Et quand il y a la foule qui vient pour le faire roi, qu'est-ce qu'il fait ? Il se retire. Non, ce n'est pas ça que je veux. Et autant l'exemple de Jésus-Christ que les paroles de Paul qui nous appellent à être réalistes, il y aura des larmes, nous invite nous aussi, en tant qu'anciens, mais en tant qu'Église également, ne rien dissimuler. Parce que notre génération a besoin de connaître la repentance. Dans l'Église, on a besoin que nos cœurs rebelles soient exposés. Mais aussi en dehors de l'Église, on a besoin d'avoir un message clair pour que la repentance soit le vrai cadeau, pour que les personnes puissent connaître Dieu et accepter Jésus-Christ. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Paul continue et encourage l'Église par ses épreuves à venir. Non seulement il parle, souvenez-vous des larmes et des épreuves que j'ai connues, mais maintenant il va leur dire, voilà où je vais, et vers d'autres souffrances. Et c'est les souffrances vers Jérusalem qui m'attendent. Et il dit lui-même, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Franchement, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais je sais que je vais souffrir. je sais que je vais avoir des tribulations. Et c'est exactement ce même terme qu'on trouve dans l'Apocalypse, hein, qui dit la grande tribulation. Et Paul parle exactement de ce même terme. Je vais avoir des tribulations. Ça va être chaud, ça va être difficile, franchement. Mais ce qui est extrêmement encourageant pour l'Église et pour les anciens, c'est que Paul nous équipe ici en replaçant sa souffrance et donc notre souffrance dans le contexte de l'œuvre de Dieu. C'est lié par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me pousse et qui me dit et qui va permettre que je sois, que je passe par des souffrances. Le Saint-Esprit atteste et me dit cela. Autrement dit, Paul sait que sa souffrance va être dans la main de Dieu. Paul n'y va pas en kamikaze ici. Ce n'est pas un extrémiste. À d'autres reprises, Luc, dans les chapitres précédents, nous a montré que, par exemple, en Galatie, Paul, à des moments, a fui. Il a fui une ville où on le persécutait, où on s'opposait à lui. Il a fui, il est parti dans une autre ville. Il y avait des temps pour fuir. Mais là, maintenant, l'Esprit me dit, l'Esprit m'atteste, lié par l'Esprit, que je vais souffrir. Je dois aller là-bas et je vais aller pour souffrir. Et j'y vais alors de manière résolue parce que c'est Dieu qui est au contrôle de cela. Et ça nous rappelle encore une fois un autre exemple, n'est-ce pas ? Un autre exemple de quelqu'un qui est monté à Jérusalem de manière volontaire et de manière décidée pour aller souffrir. Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Et c'est Luc, dans son évangile aussi, à partir du chapitre 9, qui montrait que, à partir de ce moment-là, je crois que c'est 9:51, vous pourrez lire, Jésus va de manière résolue à Jérusalem, sachant que c'est la croix qui l'attend. Il y va pour souffrir, sous la conduite bienveillante de Dieu. Et c'est également le cas de Paul ici, et qui nous invite à réfléchir. Et je crois que c'est là où Paul est un encouragement autant pour les anciens que pour chacun d'entre nous en tant qu'Église. C'est qu'il est en train de nous dire la chose suivante. Nos épreuves, nos souffrances ne sont pas une erreur de parcours. Nos épreuves, nos souffrances ne sortent pas de la main de Dieu. Alors clairement, les hommes font du mal. Clairement, la méchanceté et l'injustice sont présentes. Et parfois, elles n'en sont pas seulement à cause d'autres, mais aussi parce que nous avons fait le mal. Parce que nous nous sommes trompés, nous avons choisi la mauvaise stratégie. Mais Paul dit, dans tout cela, la souveraineté de Dieu n'est pas mise hors jeu. Dieu n'est pas limité par le mal que nous faisons ou par le mal que les autres font. Alors c'est clair que ce n'est pas une excuse, n'est-ce pas ? Ce n'est jamais une excuse pour se laisser aller. Mais Dieu n'est pas limité par cela. Et Paul veut aller au-devant de cette souffrance dans le but précis. Regardez le verset 24. Le but d'aller là-bas, c'est la fin du verset 24, c'est pour rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dieu ne lui a pas dit qu'il va être témoin en louant un hôtel 4 ou 5 étoiles, n'est-ce pas ? Il ne lui a pas dit qu'il va être témoin à Jérusalem en louant la super agora avec climatisation, coca à volonté et sandwichs qu'ils vont distribuer pour tout le monde. Non, non, il lui a dit, tu vas être témoin dans le cadre de la souffrance. Dans le cadre où tu vas être lié, emprisonné. Et c'est au final, il faut bien qu'on y réfléchisse là, grâce à cela que, a priori, Paul s'est retrouvé devant César. Ce qu'il n'aurait pas pu y aller sinon. Mais c'est grâce à cela que même César, de l'époque, a pu entendre l'Évangile. Et ça, c'est énorme, n'est-ce pas ? Et ça doit nous faire réfléchir pour nous. Qui sait si les souffrances que Dieu te donne aujourd'hui ne sont pas là justement pour te permettre de témoigner. Et c'est vrai que plusieurs d'entre nous souffrent de manière forte et dure, comme c'était le cas pour Paul. Et pour Paul, il savait que certainement c'était la mort au bout. Et plusieurs fois, il l'a reconnu. Mais il est en train de nous dire ici, qui sait si nos épreuves ne sont pas là aussi pour nous permettre de témoigner à des personnes qui, dans un autre cadre, n'auraient pas eu l'occasion d'entendre parler de Dieu. Et Dieu nous a permis, particulièrement à nous, de témoigner ou d'être dans la souffrance, que ce soit la maladie, que ce soit une difficulté de chômage ou autre, pour nous permettre de témoigner, pour que des personnes voient des chrétiens vivre ces situations et entendre l'évangile et voient la réalité de l'évangile dans ce cas de souffrance et que cela marque. Et cela est un grand encouragement pour nous rappeler que nos épreuves ne sont jamais en dehors des mains de Dieu et que Dieu est à l'œuvre même là. Paul continue et encourage l'Église aussi, ainsi que les anciens par ses avertissements. Avec ce verset 28 qui est vraiment très riche, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Et Paul rappelle ici premièrement aux anciens, mais à chacun d'entre nous aussi, à chacun des membres de l'Église, que l'Église est à Dieu. L'Église ne nous appartient pas, et encore moins appartient aux anciens. Quand j'étais à Wittenheim, une fois il y a un président qui s'occupait aussi des chants, qui est venu me voir et qui m'a dit « On n'est plus à l'aise dans l'Église, ça ne va plus. » On n'est pas bien. Depuis qu'il y a certaines personnes qui sont venues, on n'arrive plus à avoir cette liberté pour chanter comme on chantait avant, pour taper des mains comme on chantait avant. Ce n'est plus notre Église. Et la réponse est, mon ami, ça n'a jamais été ton Église. Elle n'a jamais été là pour que tu puisses taper des mains comme tu as envie. Elle n'a jamais été là pour que tu puisses lever tes bras comme tu as envie, ni pour que tu puisses chanter comme tu as envie, parce que tu ne chantes pas pour ton plaisir, mais tu chantes pour la gloire de Dieu. Et les autres sont là aussi, et tu dois accompagner les autres et les aider aussi, et accepter de leur manière de chanter, ou les chants qu'ils aiment, ou les vieux chants qu'ils aiment, ou les nouveaux chants qu'ils aiment, mais pour qu'eux aussi puissent glorifier Dieu. Et ce n'est pas que pour toi. L'Église n'est pas là pour nous, mais l'Église est là pour Dieu. Et si elle est là pour Dieu, alors Dieu va nous faire du bien et nous transformer. Et Paul nous rappelle ici le grand prix de l'Église. C'est cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Et là encore, on peut se regarder les uns les autres et se dire, mon ami, parfois tu m'énerves, mais Dieu t'a acquis par son propre sang. Voilà ta valeur. Voilà pourquoi je veux persévérer avec toi. Voilà pourquoi c'est important qu'on persévère ensemble, parce que cette Église a une telle valeur. En fait, il n'y a pas de choses sur terre, de projets sur terre, de personnes sur terre qui ont de plus grande valeur que l'Église. Parce que la plus grande valeur, c'est ce pourquoi Dieu a donné son sang. Et voilà ce qui doit nous motiver à servir l'Église en tant qu'anciens, mais aussi en tant que membres de l'Église, quel que soit notre service, parce que c'est cette Église que Dieu aime à ce point. Et à cause de cela, voilà cet encouragement pour, j'allais dire, nous mettre un coup de pied aux fesses. Je l'aurais dit un petit peu différemment. Mais pour nous pousser à le servir. Pour nous investir les uns dans les autres. Pour ne pas attendre de notre côté que les autres fassent pour nous. Mais pour que nous aussi nous puissions, parce que c'est celle que Dieu aime, c'est l'épouse de Dieu, son corps racheté par son sang. À cause de cela, nous avons besoin de la regarder avec ce nouveau regard. Pas le regard, purée, qu'est-ce que tout va mal. Pas ce regard, oh là là, comme Claire est habillée le dimanche matin, je n'arrive pas à me concentrer sur le chant et sur ce qui est dit, ça me gêne. Mais ce regard, voilà l'Église de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire au travers d'elle. Voilà le projet de Dieu. Et à cause de cela, je veux m'y investir. À cause de cela, je veux persévérer. À cause de cela, je veux prendre ma place. À cause de cela, je veux encourager et me lancer. Et surtout à cause de cela, Paul avertit les anciens. Verset 28. Prenez donc garde. Pour veiller sur l'Église, vous devez veiller sur vous-même d'abord. Vous ne pourrez pas prendre soin de l'Église si vous ne prenez pas soin de vous. Et c'est vrai aussi, encore une fois, pour chaque membre de l'Église. Et cela à cause de dangers. Et l'origine du danger est assez étonnant dans ce que nous dit Paul. Regardez verset 29. « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. » Donc Paul est en train de nous dire, il y a des personnes de l'extérieur qui vont venir. Il y a un danger de l'extérieur qui va venir. Et il dit, parmi vous, parmi les anciens, donc des personnes que l'Église va mettre en place vont être des dangers. Et là, en tant qu'Église, on doit faire gaffe. On doit veiller à qui nous allons mettre en place. Parce qu'il y a un vrai danger. Et deuxième source de danger est, verset 30, que du milieu de vous se lèveront des personnes qui prononceront des paroles perverses. C'est-à-dire que sur vous qui êtes déjà en place, il y a un autre danger. Donc danger de l'extérieur et danger de l'intérieur. Et à cause de cela, veillez. Et ça surprend, parce que Paul, dans ce même verset 28, nous rappelle que c'est le Saint-Esprit qui vous a établi évêque. C'est étonnant, n'est-ce pas? Comment d'un côté, le Saint-Esprit vous a établi évêque, et c'est extrêmement rassurant pour cela, mais comment de l'autre côté, il peut en même temps dire, parmi vous, au milieu de vous, il y aura du danger. Mais c'est pas parce que le Saint-Esprit nous a établi évêque ou ancien, que ça nous donne tous les droits et que ça nous immunise contre tout danger, contre toute tentation externe et interne. Et que ça nous enlève notre responsabilité en tant qu'Église de réfléchir à qui nous mettons en place. Tant que Jésus-Christ n'est pas revenu, l'Église reste dans une zone de combat. On est en combat et on doit savoir cela. Satan attaque depuis l'extérieur, mais aussi depuis l'intérieur. Des loups redoutables et des hommes qui prononceront des paroles perverses. Et remarquons que le point commun de ce que Paul nous dit ici, autant de la part des loups redoutables que de ceux qui ont une parole perverse, c'est que l'un et l'autre va rechercher son propre intérêt. L'un et l'autre va rechercher sa propre gloire. Et il faut être honnête que nous sommes tous tentés par cela. La fonction d'autorité comporte ces tentations. Tentations au niveau de la renommée. Mettez plusieurs pasteurs ensemble. Faites un séminaire où chacun va apporter un message et je vous garantis que chacun, à un moment donné, aura la pensée suivante. Est-ce que c'est mon message qui a été le meilleur? 100% garantie. Nous sommes tous marqués par cela, n'est-ce pas? Cette tentation de vouloir être le meilleur, d'attirer les regards à nous, l'approbation à nous, plutôt que notre message, notre parole, notre service oriente vers la gloire de Dieu. Tentation au niveau de l'argent. Utiliser le service pour s'enrichir. Et c'est pour ça que Paul rappelle après au verset 33, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même comment ses mains ont pourvu. » Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir, c'est pas ça, mais il ne faut pas soutenir si la tentation de s'enrichir est là, si le but du ministère est là pour s'enrichir. Je ne sais plus si je vous ai déjà partagé cela, mais quand on était à l'IBG première année, il y avait tous ceux qui voulaient poursuivre la formation, qui devaient rechercher un soutien. Et à un moment donné, on s'est retrouvés à quelques-uns dans la cuisine, à manger tard le soir, et il y a quelqu'un qui disait un peu où il en était et quelqu'un d'autre a pris la parole et a râlé, commencé à râler, dit « C'est pas normal qu'on ait si peu. C'est pas normal qu'on soit soutenu si peu, qu'on n'arrive pas à trouver du soutien. » Et ce qui était assez intéressant, c'est que la personne qui râlait est une personne qui n'avait jamais fini ses études et qui était toujours payée moins que ce qu'elle réclamait maintenant. Autrement dit, je veux être pasteur pour gagner plus. Et ce genre de personne, Paul nous dit, à écarter. Mais soyons clairs, C'est pas parce qu'on est déjà en place qu'on n'est pas tenté par cela. La tentation de l'argent est là aussi présente. Et c'est pour ça qu'il y a tellement aussi de scandales au niveau de l'argent. Tentation au niveau de la renommée, tentation au niveau de l'argent. Et troisième grande tentation de l'être humain, le sexe, n'est-ce pas? Et malheureusement, nos églises ne sont pas immunes de ces problèmes-là. On peut facilement pointer du doigt ce qui se passe actuellement dans l'église catholique, mais nos églises évangéliques ne sont pas immunes de cela. Et malheureusement, il y a eu aussi des scandales d'adultère de la part de pasteurs, voire d'abus sur enfants. Et ne croyons pas que nous sommes à l'abri de cela. À cause de cela, veillons. Veille sur toi-même. Mets le cadre. Quand tu reçois une femme, ne ferme jamais la porte. C'est pas parce que t'es super sexy, mais c'est que tu es un être humain. N'est-ce pas? Etc. Avec les enfants, ne sois jamais seul, mais toujours à deux, pour veiller. Veille sur toi-même. Prenez garde à vous, et ainsi, pourrez prendre garde et prendre soin de l'Église. Remarquons aussi que Paul parle de discours pervers qui émanent des anciens eux-mêmes. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas écrit « Attention, j'ai des paroles perverses », n'est-ce pas? Il n'y a jamais ça sur le front de quelqu'un. Sinon, franchement, ce serait assez facile et on le mettrait vite de côté. Donc comment ça peut venir? Et comment veiller? Et au final, la perversité va se mesurer à un référent. C'est un référent qui nous permet de savoir est-ce que ça c'est pervers ou est-ce que ça c'est pas pervers. Et la grande question c'est, quel est le bon référent? Si le référent reste l'Évangile, et ce que Paul nous dit depuis le début, sans rien dissimuler, et qu'il répète ici, verset 27, avant de nous dire cela, sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu, prenez donc garde. Donc voilà le bon référent, l'Évangile complet, entier. Celui que Paul a laissé notamment. C'est avec ça que vous allez pouvoir mesurer les paroles qui sont annoncées à l'école du dimanche, à la garderie, au flambeau, au groupe de jeunes, à l'église et partout dans nos discussions. Voilà le référent à laquelle on doit mesurer, évaluer tout ce qui est dit. Et si ce référent est bien en place, alors le légalisme et le laxisme vont être mis en évidence et rejetés. Mais si le référent est l'homme, si le référent est juste de caresser l'homme dans le sens du poil, et ça on sait faire aussi, n'est-ce pas? Et c'est dangereux. Alors la perversité ne sera pas mesurée, ne sera pas vue. Parce que tout ce qu'on veut, c'est flatter. C'est faites-moi du bien. Ne me dites pas ce qui va mal. Ne me parlez pas de péché. Surtout pas. C'est pas la mode. Mais sans ça, il n'y aura pas d'appel à la repentance. Il n'y aura pas de seigneurie, vraiment, en Jésus-Christ. Et alors, il n'y aura pas de témoignage à l'extérieur. Veillez sur vous-même. Veillez à ne rien dissimuler pour vous-même, afin de ne rien dissimuler pour les autres, pour ceux qui vous entourent. L'Église est en danger, nous dit Paul. Il y a un théologien qui disait la chose suivante. L'Église n'est jamais plus loin qu'à une génération de sa fin. L'Église n'est jamais plus loin qu'à une génération de sa fin. Pas parce que Jésus-Christ va revenir. Oui, on attend qu'il revienne. Mais si nous arrêtons de veiller à l'Évangile, si nous commençons à dissimuler pour la génération future, c'est fini. Pour la prochaine génération, c'est fichu. Nous sommes responsables, notre génération, de ce qui va être transmis. Et de ce que l'Église ne s'arrête pas. L'Église n'est jamais plus loin qu'à une génération de sa fin. Nous sommes engagés dans ce combat, Satan attaque, et il ne prend pas de repos. À cause de cela, ne prenons pas de repos. Et Paul nous a averti ici, veillez. Et c'est vrai que ces propos pourraient décourager de ce danger qui vient de la part des anciens, mais Paul poursuit cet encouragement en nous encourageant par cet appel à la confiance en Dieu. Même plus que cela, il dit « Je vous confie à Dieu, je vous donne à Dieu, je vous place devant Dieu et à la parole de sa grâce. » Avec ces derniers propos, avec ces derniers avertissements, Paul est en train de dire aux anciens « Ne comptez pas sur vos propres forces !» Et à l'Église, « Ne comptez pas sur les forces de vos anciens. » Mais alors sur quoi ? Voilà la source de la puissance. Je vous confie à Dieu, confiez-vous, comptez sur l'œuvre de Dieu, sur la puissance de Dieu. Et cette œuvre et cette intervention de Dieu, notamment Paul est en train de nous dire que c'est aussi au travers de sa parole, qui est une parole de grâce, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Et remarquez bien, qui c'est qui a cette parole, cette puissance ? Oui, c'est Dieu, mais c'est à la parole de sa grâce qui a la puissance. La puissance de Dieu se trouve aussi dans sa parole. Et c'est pour ça qu'il ne faut rien dissimuler et garder cette parole intacte. C'est là que Dieu agit, c'est au travers elle, par sa médiation, que Dieu agit pour nous protéger du faux et de la division. C'est au travers elle que Dieu agit pour non seulement nous conduire à lui pour la conversion, mais continuer à nous conduire à lui tout au long de nos vies chrétiennes. C'est par elle que Dieu continue à nous montrer qui il est, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, pour que nous amener à la repentance, afin de le laisser nous transformer toujours plus à sa ressemblance, et nous conduire dans l'amour, dans l'unité et l'obéissance joyeuse. Pas nous, pas les anciens, mais la parole, sans rien dissimuler. Et Paul plaide ici pour la centralité de la parole dans la vie de l'Église, dans la conduite de l'Église par les anciens. Parce que c'est par elle que Dieu agit, par la puissance de son Saint-Esprit, pour nous permettre de vivre la grâce qui vient du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, encore une fois, que de mettre un ancien en place, c'est une grande question. Parce qu'au final, on va décider qu'est-ce qui est central dans la vie de l'Église. Qu'est-ce qui va conduire la vie de notre Église? Et c'est pour ça qu'on doit veiller. Est-ce que vos sons ou lits sont ancrés dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est eux qui mettent en avant leurs pensées ou ce que Dieu dit? Et sans vouloir être offensant, franchement, ce que Philippe, Vossen et Uli disent ou pensent, on s'en fiche. C'est pas ça qu'on leur demande, n'est-ce pas ? Ce qu'on leur demande, c'est de nous dire ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Voilà leur responsabilité. Mais cela pose la question alors de la place de la parole dans nos vies, dans ma vie. Alors c'est vrai que je pourrais vous donner l'application « Alors lisez vos Bibles ». C'est une bonne application. Franchement, je vous encourage à la garder. Mais j'aimerais vous faire réfléchir un peu plus. À l'aide d'un bouquin qui m'a vraiment marqué, je ne sais pas si vous avez lu, c'est un vieux livre, « Si tu veux aller loin » de Ralph Challis. Alors, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à lire. Même s'il est vieux, ce n'est pas grave, il est bien quand même. Alors, je vous avoue que la première fois, en fait, c'est mes parents qui me l'ont offert. On a dit, ils l'ont offert à chacun de leurs enfants. On a dit « Merci ». On doit le lire. J'ai commencé à lire, introduction, premier chapitre, je dis « Oh, qu'est-ce que c'est nul !» et je l'ai posé. Et je l'ai repris 2 ou 3 ans après, et là, je dis « Oh, purée, ça c'est de la bombe !» et je l'ai dévoré. Et voilà une des choses qui m'a notamment marqué. Et Ralph Challis nous fait la réflexion suivante. « Mon ami, ce que je veux pour toi, c'est que tu aies une vie marquée par Dieu. » Et il dit lui-même, voilà, j'ai fait cette recherche sur tous les hommes que Dieu a utilisés de manière particulière, hommes et femmes, bien sûr. Hein. Il a dit, ils avaient 2 choses en commun, ces hommes et ces femmes que Dieu a utilisés de manière particulière. Première chose en commun, c'est qu'ils avaient une vie intense de prière. Ils prenaient le temps de rechercher Dieu. Et deuxième chose qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils lisaient tous la Bible en 1 an, chaque année. Et Ralph Challis nous dit la chose suivante, voilà ce que je désire pour toi. Voilà ce que je convoite pour toi, pour le bien de ta vie, pour le bien de ton église, pour le bien de ta famille et pour le bien de la prochaine génération. Et il se met à la place du gars qui entend ça, il dit « Oh purée, c'est chaud ça, hein ?» toute la Bible en 1 an. Et Ralph Challis nous conduit alors dans la réflexion suivante, et je vous la transmets. Il dit, voilà, tu te convertis à 20 ans. Tu dis, en un an, c'est pas possible, je vais lire en 5 ans. Il dit, ok, 5 ans, c'est pas mal. Mais réfléchis maintenant avec moi. Donc, tu te convertis à 20 ans, tu l'as lu en 5 ans. À 25 ans, tu es un adulte mature. Peut-être, tu t'occupes du groupe de jeunes, et c'est bien, mais tu as lu une seule fois la Bible. Une seule fois la Bible. Soyons clairs que tu es encore à l'école maternelle de Dieu, et pourtant, tu enseignes d'autres. À 30 ans, tu as peut-être des enfants. Tu es encore en lien avec les groupes de jeunes, tu es un peu le modèle des jeunes, mais tu as lu deux fois la Bible. Alors, tu as peut-être fini l'école maternelle, tu commences peut-être l'école primaire, mais ce qui est un peu embêtant quand même, c'est que quand tu as fini la deuxième fois de lire ta Bible, tu as déjà oublié ce que tu as lu avant. Tu ne fais plus les liens, ça fait tellement de temps qu'ils sont écoulés entre. Tu as 40 ans, tu es responsable d'une famille, tu as des ados qui se posent franchement des questions chaudes, et pas juste d'où viennent les cadeaux de Noël, mais c'est comment on fait les bébés, et encore plus que ça, et comment Dieu veut le projet de Dieu pour la sexualité, n'est-ce pas ? Et franchement, l'Église m'énerve. Et comment tu vas répondre à tes jeunes comme ça ? Mais tu as lu 4 fois la Bible. Toi-même, tu es encore un enfant dans les choses de Dieu. Comment tu veux transmettre ? À 60 ans, tu t'approches de la retraite et tu as lu 6 fois la Bible. Mais à 60 ans, tu devrais être celui qui encourage ceux de 40 ans qui ont des ados et qui se posent des questions. Tu devrais être un pilier de l'Église, mais tu as lu 6 fois la Bible. Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas encourager l'Église alors que tu ne comprends même pas encore ce qui est écrit dans la Bible ? Il nous dit maintenant, fais le raisonnement inverse. Tu vas lire la Bible en un an, chaque année. Tu te convertis à 20 ans. À 25 ans, tu as lu 5 fois la Bible. 5 fois. À 30 ans, avec tes deux enfants qui se posent des questions, avec les jeunes de l'Église qui veulent avancer, tu as lu 10 fois la Bible. Et tu peux avancer la pensée de Dieu, parce que toi-même, tu es rempli de la pensée de Dieu. Tu commences à faire beaucoup de liens dans toute la révélation progressive que Dieu a fait. À 40 ans, alors que tu as des adolescents qui se posent des questions sensibles sur leur vie, sur leur devenir, sur la volonté de Dieu, sur le bien fondé de l'Église, tu as lu la Bible 20 fois. Et tu es affermi dans la pensée de Dieu. Et là, tu peux avoir un discours qui est inspirant pour les jeunes et leur donner envie d'avancer. À 60 ans, tu vas bientôt prendre ta retraite. Tu auras lu la Bible 40 fois. Et au lieu de prendre ta retraite à l'Église parce que tu n'as rien apporté, tu pourras apporter et soutenir les jeunes de 40 ans qui ont quelque chose à apporter aux plus jeunes. Et c'est là qu'il nous dit, mon frère, ma sœur, je te convoite pour Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire ? La question n'est pas, est-ce que c'est dur maintenant ? Mais la question qu'on se pose dans tout, qu'on se fait avec nos études, notre travail, c'est qu'est-ce que je veux vivre ? Et c'est là que Ralph Charles nous pose cette question. Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta relation avec Dieu et dans ton Église ? Qu'est-ce que tu veux apporter ? Mais voilà comment tu peux apporter. Et ça représente quoi ? Ça représente 4 chapitres par jour. 4 chapitres par jour que tu lis. Et ça veut dire, grosso modo, entre 20 et 30 minutes par jour. Ça veut dire un petit peu moins de Facebook ou une émission télé. C'est tout. Mais voilà le grand impact que tu peux avoir en ayant cette bonne hygiène de vie. Ne subis pas ta vie. Ne subis pas ta lecture de la Bible. Mais prends-la en main pour aller vers le bon objectif. Pourquoi ? Parce qu'elle a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Donc, quel est ton objectif ? Et peut-être tu n'as plus 20 ans, c'est pas grave ça, mais aujourd'hui, c'est quoi ton objectif ? Prends le temps d'y réfléchir pour apporter quelque chose. Deuxième réflexion que j'aimerais vous laisser, c'est aussi comment nous lisons la Bible ? Comment nous la lisons ? Et malheureusement, parfois, on l'applique un peu trop souvent directement à nous, par exemple. Vous vous souvenez de cet épisode où Jésus guérit la femme qui perdait du sang, et elle touche Jésus, touche son vêtement, et elle est guérie. Et parfois, un peu trop rapidement, on dit, purée, Jésus l'a guérie, donc Jésus veut me guérir. Je suis malade, je vais prier. Dieu veut me guérir. C'est sa promesse pour moi. Ou alors, au geôlier, dans le livre des Actes, c'est à Philippe, si je me souviens bien. Cette parole de Paul, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà ce que la Bible dit. Donc c'est une promesse pour moi. Mes enfants vont être sauvés. Est-ce que c'est juste ? L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Est-ce que vous lisez comme ça la Bible ? Pourquoi vous ne le faites pas, là ? Hein ? Pourquoi on ferait dans un contexte et pas dans un autre ? N'est-ce pas ? Même chose pour ce même épisode où il y a la femme qui est guérie de son écoulement de sang. Juste après, Dieu ressuscite la fille de Jaïrus. Personne ne prend ça comme une promesse. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, je vais prier pour qu'il ressuscite, n'est-ce pas ? On prend trop rapidement pour nous. Et on oublie de se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Qu'est-ce que ça veut dire dans son contexte, pardon ? Quel était le message pour les premiers lecteurs, dans leur contexte ? Et en quoi cela oriente vers Jésus-Christ ? Comment ça fonctionne là, afin que moi, je puisse maintenant l'appliquer dans ma vie ? Et ces questions sont nécessaires pour ne pas faire d'erreur de compréhension. Pour le geôlier, il n'y a pas cette promesse que mes enfants vont se convertir. Mais c'est un appel à la fois pour chaque membre de la famille. Dieu veut sauver tous les membres de la famille, qu'ils soient vieux ou qu'ils soient jeunes, qu'ils soient des enfants même où on n'en faisait pas attention à l'époque. Mais pour cela, chacun doit faire une démarche de foi personnelle. Et donc pour cela, moi en tant que père, je dois annoncer l'évangile et je dois vivre l'évangile devant mes parents et devant mes enfants aussi. N'est-ce pas ? Pour qu'eux puissent comprendre leur péché, pour qu'à un moment donné, je puisse dire à mes enfants, tu es pécheur. Parce que si mais je ne leur dis jamais à mes enfants qu'ils sont pécheurs, comment ils vont pouvoir se repentir ? Ils ont besoin de l'entendre pour leur bien, sans rien dissimuler. Pour la femme atteinte de perte de sang, dans son contexte, elle m'avait mis sa foi en plein d'autres choses, dans plusieurs types de médecine, en dépensant tout son argent. Mais ça n'avait pas marché. Et en dernier recours, elle va faire un truc débile. Elle va toucher un vêtement. Et elle va faire un truc impensable en tant que femme impure. Elle va contaminer tout le monde. Elle n'avait pas le droit de faire cela. Et elle va toucher Jésus-Christ parce qu'elle a entendu qu'il était capable. Et elle est guérie. Et ce texte nous dit, oui, on a tous la foi. Mais ce n'est pas ça la question. C'est de bien choisir le bon objet de notre foi. On peut mettre notre foi en Jésus-Christ. Il est capable de nous libérer de ce qui nous détruit, autant de la maladie que de la mort et au final que de l'enfer. Mais ça ne veut pas dire qu'il va me libérer et qu'il va me guérir maintenant parce que je suis malade. Mais c'est cet appel à mettre notre foi en lui. Lui peut nous sauver. Le Saint-Esprit, oui, nous éclaire. Mais le Saint-Esprit ne nous dispense jamais de réfléchir. C'est la bonne nouvelle aussi de l'Évangile. C'est que Dieu nous a créés avec un corps, et dans ce corps, il y a un cerveau. Utilisons-le. Et le Saint-Esprit est là pour éclairer ce cerveau, pour renouveler ce cerveau, pour qu'il puisse bien réfléchir, pour qu'il puisse bien comprendre. Mais il ne va pas le faire à notre place. Il est là pour nous qualifier, nous aider, nous soutenir, mais pas pour faire notre travail. Prenons le temps, dans notre étude de la Bible, de la lire avec sérieux, de comprendre quelle est cette puissance, afin de la lire régulièrement, de laisser Dieu agir en nous et de prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle veut dire, dans son contexte, pour les premiers lecteurs, afin de l'appliquer correctement à nous et pas de travers. Cela est important, parce que comme dit l'Église, est en zone de combat. Et parce que l'Église est en zone de combat, il y aura des peines et des difficultés, il y aura des larmes et des douleurs. Mais il y aura aussi de la joie, parce que Dieu agit par sa parole puissante. Et cela nous renvoie alors à chacun. Comment je considère cette parole ? Quelle place je lui donne dans ma vie ? Et nous, en tant qu'Église, quelle place nous voulons lui donner ? Et dans notre choix d'ancien, quelle place allons-nous lui donner ? Et cela aura une immense répercussion. Parce que comme dit Luc place ce discours dans son récit du livre des Actes, qui nous dit « Voilà comment Jésus-Christ veut répandre son royaume. Et Jésus-Christ répand son royaume par des personnes qui sont pleines de sa parole et par des églises qui sont pleines de sa parole, afin que chaque membre vit de manière pleine de sa parole là où il est, capable de transformer ses relations, transformer sa manière de travailler, transformer sa manière de gérer son argent, transformer sa manière de gérer son temps et de parler. Et voilà comment le royaume se répand. Et que ça puisse être notre cas, marquer notre Église à nous aussi. Je vous invite à prier.